plusieurs pays se sont engagés à octroyer des financements à hauteur de 2,3 milliards de dollars pour soutenir l'éducation à travers le monde. C'était la semaine dernière lors de la conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation à Dakar au Sénégal. Par exemple, les fonds que le Royaume-Uni mettra à la disposition de l'Afrique serviront entre autres à maintenir près de 900 000 enfants à l'école chaque année sur une période de 3 ans, former près de 200 000 enseignants et construire au moins 2400 nouvelles salles de classe. Quelle analyse faire de cette initiative? Pour en parler, je reçois Gaston Boussemena. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Vous êtes ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Godi Kayembe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, Lisa Delensigle. Jean Bosco Pouna, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation s'est tenue le 2 février dernier à Dakar au Sénégal. Plus de 1200 personnes ont participé à cette conférence qui, selon les organisateurs, était une véritable démonstration du renforcement de la volonté politique mondiale pour garantir que chaque enfant puisse aller à l'école et apprendre. Plus de détails avec vous, Donna Madimba.
13 présidents étaient présents à ces assises de Dakar au Sénégal, dont 10 présidents en exercice, plus de 100 ministres et au total au moins 1200 participants. Ces assises ont enregistré beaucoup de nouveautés, notamment la plus importante promesse de financement jamais enregistrée au profit de cette initiative, 2,3 milliards de dollars pour cette année 2018, presque le double de toute la somme mobilisée pour les besoins de l'éducation par cette conférence ces trois dernières années. Les différents acteurs prévoient même de financer au moins 2 milliards chaque année pour l'éducation dans le monde d'ici 2020. Les gouvernements des pays en développement sont encouragés à augmenter le budget prévu pour l'éducation à au moins 20% du budget national. Autre nouveauté est que les pays comme la Chine étaient présents. Le Sénégal s'engageant à hausser ses propres dépenses a été le premier bailleur africain, alors que les Émirats arabes unis ont eux aussi promis 100 millions de dollars de contributions.
Merci Donna Madimba. Gaston Moussemena, vous êtes ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La RDC a pris part à cette conférence. Comment vous avez analysé cette initiative?
Bien, je dois d'abord vous remercier pour m'avoir invité à cette analyse et aussi saluer tous les auditeurs de la radio Capi. Bonne année à tous. Oui, nous avons été heureux de participer à cette grande conférence qui parle de l'éducation dans le monde. C'était un engouement important parce que tout le monde, de manière unanime, reconnaît que l'éducation est un pouvoir qui peut transformer le monde. Tout le monde a reconnu que l'éducation peut nous éviter l'obscurantisme. L'éducation peut nous aider à nous sécuriser. Donc l'éducation, comme tout le monde l'a attesté, peut donc rendre le monde humain et ainsi nous permettre de tout améliorer. Tout s'est fait par l'éducation, dont l'éducation a la place des choix. Voilà pourquoi tous les partenaires importants et sérieux ont accepté d'être là et chacun de remplir son engagement. Et moi, comme ministre de l'enseignement primaire et secondaire professionnel, au nom du gouvernement, j'ai été mandaté pour que la République démocratique du Congo aussi renouvelle son engagement. Oui, je viens de dire renouveler parce que la République démocratique du Congo avait déjà à l'époque, en Belgique, en 2014, pris cet engagement. Cet engagement de considérer l'éducation comme la priorité, c'était à l'époque du Premier ministre Matata Ponyo, qui lui avait représenté le pays. Cette fois-ci, c'était mon tour comme ministre de l'enseignement primaire et secondaire. J'ai renouvelé cet engagement en insistant sur l'amélioration parce que nous sommes les grands bénéficiaires de cet apport. À ce jour, nous sommes soutenus par le partenariat mondial pour l'éducation. Et avec l'étendue de notre pays, toutes les difficultés que nous avons, nous sommes conscients. Nous sommes conscients, et c'est là d'abord le premier des citoyens congolais qui a une disposition particulière sur l'éducation, comme vous le savez, dans la révolution de la modernité. Nous devons donc tout faire parce que nous rêvons de l'émergence du pays. Les chefs de l'État et nous tous, nous sommes conscients que nous transformerons ce pays. Ce pays deviendra émergent que si ce pays a des valeurs. Et ces valeurs, il faut les former. Il faut qu'elles acquièrent des connaissances appropriées. Voilà pourquoi nous aussi, nous étions là et nous étions errés de nous signaler, de prendre cet engagement.
Monsieur le ministre, la conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation encourage les pays en développement à augmenter leurs dépenses en matière d'éducation pour atteindre 20% de leur budget total. Est-ce que ce sera possible pour la RDC d'ici 2020 lorsqu'on connaît la modicité de la part allouée à l'éducation dans le budget national?
J'ai parlé clairement du renouvellement de l'engagement. De là où nous étions à peu près à 1% ou 2%, vous devriez savoir que déjà, avec le Premier ministre Matata, nous sommes arrivés à 18%, presque 19%. C'est ce que l'opinion ne savait peut-être pas. Au regard de cet engagement, nous étions déjà arrivés à ce niveau-là. Et par ma bouche, le gouvernement a pris l'engagement de pousser son budget en ressources propres à 23,5%. Il est possible de quitter 18-19% pour arriver à 23%, dépasser légèrement les 20% que nous recommande le partenariat mondial pour l'éducation. Je vous assure qu'il est possible. À ce jour, nous sommes à ce niveau-là, plus de 18%, et il est possible d'aller au-delà.
Monsieur le ministre, vous parlez de plus de 18%, mais on sait que la RDC n'a pas pu atteindre ni les objectifs du millénaire pour le développement durable, EMD, ni les ODD. Qu'est-ce qui peut garantir qu'à part la volonté, la RDC peut réellement y arriver?
J'aimerais peut-être vous aider en vous précisant pourquoi on n'a pas été à mesure de remplir. Il y a eu quelques perturbations. Les taux de croissance, les difficultés économiques que nous avons connues avec la baisse des matières premières, tout cela a fait que, alors qu'on était en train d'accroître les taux de croissance, on était déjà à 8%, on est retombé à 2%. Les difficultés internes avec les troubles et les guerres par-ci par-là qui déstabilisent l'autorité de l'État ont été aussi à la base de toutes les perturbations. Ce sont là les arguments que nous avons avancés pour obtenir la compréhension de tous nos partenaires et qui ne sont pas insensibles à ce que nous avons dit pour nous permettre de reprendre notre engagement avec l'espoir de maîtriser tous ces paramètres qui nous ont perturbés parce que le cours de cuivre est tenté de monter dans l'entretemps, la sécurité est tentée d'installer sur l'ensemble du territoire, le dernier phénomène à l'espace Kasaï avec les dialogues amorcés par le gouvernement sont en train d'être vaincus. Nous pensons puisque nous sommes conscients que l'éducation peut nous permettre d'améliorer notre condition, peut nous permettre même de vaincre l'obscurantisme avec tous ces gens qui parlent de la démocratie, de l'alternance, de tout ce que vous imaginez. Pour se faire respecter, il est possible d'aller de l'avant. C'est d'abord la volonté, monsieur le journaliste. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo en a, il faut compter sur cette volonté.
Monsieur le ministre, avant que je ne donne la parole à d'autres intervenants, les Émirats arabes unis ont annoncé une contribution de 100 millions de dollars. Le Royaume-Uni parle de 225 millions de livres. Le Sénégal, le premier pays africain à avoir pris un engagement très sérieux, parle de 2 millions de dollars. Qu'est-ce que la RDC propose comme contribution?
La RDC, comme pays en voie de développement, devait tout simplement rester digne en allouant dans son budget en ressources internes une quotité devant atteindre 20%. Et la RDC, je vous l'ai dit, a promis d'aller au-delà de 20% de ressources internes dans son budget. Voilà ce qui était attendu pour nous, pays en voie de développement. Et la RDC a pris cet engagement. Elle s'était déjà approchée de 20% alors que on venait de trop bas.
Merci.
La RDC est capable, croyez-moi, d'aller au-delà de 20% et ainsi faire honneur à l'engagement qu'elle vient de prendre.
Merci, Monsieur le ministre. Jean Bosco Pouna, vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT, en sigle. Comment vous analysez cette initiative?
Oui, merci beaucoup pour la question que vous me posez. Mais je profite de l'occasion pour saluer Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement. Et je salue également mon collègue Godet KMD. Il est vrai que le ministre a pris part à cette grande messe de Dakar. Et c'est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. C'est un leadership au niveau de l'éducation que nous approuvons. Mais il faut également dire que le ministre est revenu sur la question relative à la volonté politique. Je crois que cette question doit être bien vue pour que nous tous nous comprenions que notre gouvernement sera capable de pouvoir répondre à son ambition, à la promesse que lui-même a faite. Mais si nous faisons une petite analyse au regard des contraintes, nous allons bien nous rendre compte que la grande contrainte faite aux États bénéficiaires, c'est qu'ils doivent prendre l'engagement de financer leur éducation au niveau interne, simplement parce que l'enveloppe de 100 millions, par exemple, mise à la disposition des États, ce n'est pas toujours compatible avec le besoin basique de l'éducation. Et donc, nous avons beaucoup de problèmes dans le secteur. Cette enveloppe ne pourrait pas suffire. C'est vrai que c'est un financement catalyseur, comme on l'appelle, mais il est vrai que le gouvernement, au niveau interne, doit prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir faire face à cela. Nous croyons que le gouvernement pourra fournir suffisamment d'efforts, mais si nous jetons un petit regard rétrospectif sur le budget 2017, par exemple, eh bien, notre gouvernement n'était capable que de pouvoir octroyer 10% à l'éducation, 10% du budget national à l'éducation, ce qui ne rencontre pas les engagements internationaux, notamment le protocole d'Ichion. Donc il faut absolument que le gouvernement aille jusqu'à ce niveau. Pour 2018, par exemple, la promesse était déjà faite que le gouvernement pourrait atteindre le 20% tel qu'exigé par les engagements internationaux. Malheureusement, pour 2018, c'est encore 15% que le gouvernement a concédé. Donc je crois qu'il y a des efforts qui doivent être faits au niveau du gouvernement pour que nous puissions approcher l'ODD4. Parce que si on n'arrive pas à cela, toutes les promesses que le gouvernement aura faites au niveau de cette grande rencontre, notamment la gratuité de l'enseignement fondamental, je crois que Son Excellence va devoir revenir là-dessus, parce que le gouvernement a fait cette promesse. Il a fait également la promesse de la généralisation de l'enseignement pré-primaire. Et donc, ce sont ces deux actes, naturellement, qui ont permis que la République démocratique du Congo soit une fois de plus éligible. Mais nous, en tant que syndicat, en tant qu'enseignants, nous attendons que le gouvernement puisse, bien évidemment, remplir cet engagement qu'il a pris au niveau de Dakar.
Jean Bosco Pouna, est-ce que la volonté politique à elle seule suffit, puisqu'on sait que la gratuité est constitutionnelle, le gouvernement l'a commencé palier par palier, mais on sait qu'elle connaît par exemple beaucoup des difficultés, donc la volonté à elle seule ne suffit pas.
Bon, il faut dire que lorsque nous regardons, vous avez cité le Sénégal. Le Sénégal, nous savons la richesse de ce pays, mais regardez, la République démocratique du Congo, c'est un potentiel minier, c'est un potentiel forestier, un potentiel fiscal, c'est un potentiel énergétique. Voilà la leçon que nous donne le Sénégal. Donc je parie que la volonté politique, c'est vrai, c'est un indicateur majeur, mais le gouvernement peut être confronté à des problèmes, le ministre l'a répété. L'éducation, c'est la priorité des priorités. On ne peut rien sans éducation. On ne sait pas développer le pays. Moi, je crois que la volonté politique, c'est une dividende importante, mais aussi il faut mettre à contribution tous les moyens que nous avons au niveau interne. Il faut combattre la corruption, il faut combattre le coulage des recettes, etc. pour que nous ayons suffisamment d'argent dans les trésors publics, ça pourra permettre que nous puissions véritablement prendre en compte les différents besoins de l'éducation qui ne peuvent pas simplement être réglés par ces partenariats. Il faut également ajouter, et ça c'est à l'attention peut-être de Son Excellence, c'est qu'il nous faut absolument faire un suivi. Le ministre vient de rentrer, il est important que dans la transparence, que l'on puisse faire la restitution auprès de la société civile, les syndicats, pour que nous tous nous puissions nous approprier les grandes résolutions et travailler main dans la main avec le gouvernement afin que nous puissions bénéficier des résultats, des retombées de ces partenariats. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces partenariats devraient nous permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais également de pouvoir former les enseignants, pourquoi pas équiper les écoles de manuels scolaires, les élèves de manuels scolaires. Donc je crois que si le gouvernement travaille dans la transparence par rapport à ces partenariats, à ces fonds qui seront alloués, eh bien je crois qu'on pourra y arriver.
Alors, Jean Bosco Pouna, très brièvement, vous le savez, on dit que la main qui donne, c'est celle qui dirige, qui commande. Est-ce que cette initiative ne présenterait pas le danger selon lequel on pourrait, ses partenaires pourraient imposer une éducation non contextualisée à certains États, notamment africains?
Mais vous avez raison, c'est-à-dire le grand reproche, qu'il s'agisse de syndicats ou encore de gouvernements, je crois que la souveraineté, on ne peut pas l'aliéner. Ce qui est sûr, et ce que nous avons toujours reproché au gouvernement, c'est que lorsque vous considérez par exemple les manuels scolaires, eh bien ce sont des manuels qui nous viennent toujours de pays occidentaux. Nous aurions aimé, parce que nous avons une expertise locale, nous aurions aimé que l'on puisse mettre à contribution
Merci.
L'inspection de l'enseignement, et ça pourra nous permettre de pouvoir contextualiser nos différents manuels, au lieu que nous puissions Merci. Recourir une fois de plus à la Belgique ou à d'autres pays occidentaux. Je crois que là, c'est peut-être un danger,
Merci,
mais il y a
Jean
moyen, avec toutes les volontés, que nous puissions ne pas tomber dans ce qu'on pourra considérer
Merci
comme
Merci Jean-Bosco Pouna. Godé Kayembe, vous êtes président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Comment vous analysez cette initiative?
Oui, d'abord, je salue la présence de Son Excellence le ministre. C'est la première fois que je le vois. Bonjour l'Excellence.
Et bonjour.
Je crois que c'est une bonne initiative qui est louable. Le problème qui se pose, ce n'est pas au Congo, ce n'est pas nécessairement le problème de volonté politique, parce que la volonté politique du gouvernement, on le voit à travers le budget affecté au système. La volonté, on le voit pas, on le déclare pas, on le voit à travers le budget. Quel est le budget que le gouvernement affecte au système éducatif pouvant permettre à ce système de booster, de devenir un système concurrentiel? Je vous rappelle que l'État congolais a affecté à l'éducation 33% du budget, de 65 jusqu'en 84. 33% du budget. Et cela a permis à tout ce qui est la meilleure, que ce soit le meilleur système éducatif à travers l'Afrique centrale. Et on a formé des cadres dans ce pays-ci. C'est vrai que lorsque nous sommes arrivés en 84 avec le programme d'ajustement structurel, qui est le budget de 33% a été ramené à 1%. La situation est tombée. Imaginez, de 83-4 à ces jours, ça fait 33%, 33 ans. Le système est détruit systématiquement. Et quand le ministre déclare qu'il faut augmenter et aller progressivement, par rapport à quelle situation? La situation est dramatique dans le système. Donc, il faut absolument que le gouvernement se pose la question, comment améliorer le système pour permettre à ce que notre système soit concurrentiel. Je vous rappelle qu'en 2014, 2015, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, au niveau du Parlement, le budget votait à 15%. Mais lorsqu'on fait la réduction des comptes, à la fin, c'est 7 ou 8% du budget qui a été débloqué. Ça fait que le ministre peut être d'accord avec moi, ça fait qu'il a un déficit de plus de 200 000 enseignants à payer. Parce que l'État congolais ne débloque pas tous les fonds prévus par le Parlement. Donc ça fait un problème. Donc la volonté politique, quand il dit la volonté politique, ce n'est pas le budget qu'on définit au niveau du Parlement qui est débloqué. On débloque soit la moitié ou moins de la moitié. Et ça fait le problème à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, nous avons eu la chance, à un moment donné, un partenariat avec le partenariat mondial mettait au niveau du système éducatif une affaire de 100 millions chaque mois pour construire les écoles. Et en principe, le gouvernement devrait construire plus de 1000 écoles chaque année. Mais on s'est rendu compte, après 3 ans, 4 ans, au lieu de parler de 3000 écoles, on commençait à parler de 500 classes. Donc ça pose un problème réel. Le problème, comme on parle de transparence, on parle de la transparence, on parle de la volonté politique. Le système congolais est détruit. Franchement, nous avons besoin des apports extérieurs, nous avons besoin des stratégies pour remonter le système. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on peut apporter. Il faut étudier comment mettre en place le mécanisme pour que l'autre système devienne normal, parce que le système est corrompu. À l'école primaire, déjà, les enfants savent corrompre les enseignants. À l'école primaire, les enseignants ne sont pas qualifiés. Les enseignants sont incompétents. Les enfants, jusqu'à l'université, ça pose des problèmes. Les professeurs d'université ne sont pas recyclés. On donne des choses aux étudiants qui ne tiennent pas. Donc, le système doit être revu globalement. Même quand même, il peut y avoir de l'argent ou le budget qu'on peut être augmenté, comme le ministre l'a dit, mais il faut revoir le système. Il faut se mettre une fois, se poser la question, est-ce que le système répond aux besoins mondiaux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre système soit concurrentiel? Alors c'est la question qui me préoccupe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le système soit concurrentiel? Parce que même si on y met de moyens aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, avec la corruption, avec tout ce qui se passe comme des pratiques néfastes au niveau du système, je ne pense pas qu'on puisse booster le développement de notre système.
Jules Muteba de Mbujima, il dit il faut un plan Marshall pour l'Afrique et non ce genre d'aide sans impact sur la population. L'Afrique en a marre avec les déclarations de bonne volonté des États qui participent à la paupérisation de leur population à travers des commissions colossales que se font payer les techniciens qui viennent et les détournements des fonds en toute impunité. Godé Kayembe.
Notre ami, il n'a pas tort. Il a raison et il réjouit ma préoccupation. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse en fait développer le plan Marshall pour régler le problème de l'éducation au niveau de l'Afrique, particulièrement au Congo. Parce que il y a des pays comme le Rwanda par exemple, qui affectent à l'éducation 50% de son budget. Le Rwanda, ce n'est pas un pays exceptionnel, c'est un pays africain, 50% de son budget. Et regarde la qualité d'hommes qu'il forme, et regarde la qualité de l'enseignement, et regarde la qualité de l'université au Rwanda. Mais pourquoi au Congo on tourne en rond? Parce qu'on ne veut pas y affecter de fonds. On préfère donner priorité aux choses inutiles. Choses qui n'apportent pas un plus à notre pays. On peut faire de l'argent à autre chose, orienter le fonds vers les choses qui ne nous avancent pas. Un pays sous-développé comme le Congo, il faut voir les jupes qu'on doit importer. Il faut voir la qualité des véhicules qui sont utilisés par nos dirigeants. Mais, regardez dans le pays, un pays pauvre comme le Congo, qui a besoin de moyens, mais on vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'éducation, mais il y en a pour acheter des choses qui ne peuvent pas contribuer au développement. Le grand problème au Congo, c'est l'affectation des moyens. Le plus de moyens qu'on a, qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer les systèmes, à quoi nous voulons y affecter pour que le système puisse avancer? Et je vous dis, comme le monsieur le raconte, toutes les distractions qu'on fait au niveau de la communauté internationale, tout ça c'est la distraction. Des millions de dollars, des milliards de dollars, c'est un grand chiffre.
C'est insuffisant.
C'est un grand chiffre, c'est un grand chiffre comme ils le disent. Mais le besoin d'abord du Congo ici, ce sont de vingtaines de milliards pour débloquer notre système.
Merci. Oui. Monsieur le ministre Gaston Musemena, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu.
C'est Monsieur Augustin Katanga Wangoy depuis la ville de Kindu dans les Maniema. L'Afrique devait montrer son indépendance en montrant sa souveraineté qu'elle clame haut et fort dans les 10 domaines. Je mets en défi les dirigeants africains qui ne veulent pas garantir l'éducation des enfants qui constituent l'avenir du pays. Et surtout, ça fait choquer en plein 20e siècle, il y a encore les analphabètes faute de moyens alloués dans les 10 secteurs. Un budget ne représentant absolument rien. En RDC, cette matière est garantie par la Constitution. À son article 43, alinéa 5, qui stipule la gratuité au niveau de l'enseignement primaire. Dans cet même article, toute personne a droit à l'éducation scolaire. Mais c'est le contraire dans notre pays. Si dans beaucoup de nos écoles, il n'y a pas les infrastructures propres, sans matériel didactique, les pauvres parents continuent à prendre les enseignants en charge. Cette éducation risquerait d'être hypothétique.
Monsieur le ministre.
Bien, j'aimerais quand même préciser une chose. le gouvernement congolais n'est pas parti à Dakar pour solliciter l'argent auprès des partenaires internationaux. Non, nous sommes partis là-bas renouveler notre engagement. Et cet engagement, je l'ai dit clairement, c'est la détermination du gouvernement congolais à améliorer son budget en ressources internes. Voilà pourquoi je me permets d'apprécier ou de remercier Jabosko Puna qui, dans son analyse, au regard de la perspicacité de son analyse, il reconnaît que c'est une question de volonté. Et lorsque moi aussi je parle de la volonté, c'est face aux contraintes ou difficultés. Je remercie aussi Godé Kayembe lorsque il essaye un peu d'analyser toutes les faiblesses de la gouvernance de manière générale. Je suis conscient, il est congolais, il en a droit. Oui, nous avons des faiblesses, nous les savons. Mais c'est ça que nous nous résumons en termes des contraintes qui ne nous permettent pas d'atteindre les ODD 4, qui ne nous permettent pas d'atteindre nos ambitions réelles. Et nous devons donc remédier à cela. Et d'après notre humble avis, nous pensons que c'est une question de volonté politique pour surmonter ces contraintes. Donc notre ami doit comprendre que l'engagement pris par le gouvernement congolais, c'est pour faire preuve de sa souveraineté. Ce sont des moyens propres du gouvernement congolais qui vont développer l'éducation dans notre pays. Et là où nous sommes partis, nous sommes allés donc affirmer cela. Voilà ce que nos amis devraient comprendre. Ce n'était pas pour demander.
Est-ce que, monsieur le ministre, cette détermination à laquelle vous faites allusion pourrait permettre de mettre fin à la prise en charge des parents dans un futur très proche?
Si nous arrivons à mobiliser des ressources et que notre budget programme cette quantité importante, nous serons à mesure d'assurer totalement la gratuité. Parce que vous parlez de la gratuité qui n'est pas encore totale, je suis conscient. Mais il y a des efforts remarquables au niveau du gouvernement. Lorsque le gouvernement améliore le nombre des enseignants qui doivent avoir leur salaire, c'est-à-dire réduire le nombre des NP, les non payés. C'est ça l'effort. Lorsque le gouvernement disponibilise des moyens de frais de fonctionnement, oui, on me dira rapidement que les moyens sont minimes. Mais c'est déjà un début de solution. C'est pourquoi je parle de la volonté que avant il n'y avait pas de frais de fonctionnement. Aujourd'hui, il y a quand même une petite quantité pour faire fonctionner nos écoles. C'est pour éviter les tracasseries des parents. C'est déjà quelque chose qui n'existait pas. Lorsque notre gouvernement arrive quand même à faire en sorte qu'en dépit des problèmes des élections, par exemple, que nous connaissons, à trouver une quantité pour assurer une bonne santé à notre personnel enseignant. L'habituel de la santé prise en charge par le gouvernement. C'est juste pour alléger la charge et éviter les tracasseries, éviter que les parents soient toujours sollicités, malgré la loi cadre qui implique aussi les parents dans la gestion des écoles. Donc, cette gratuité dont on parle est déjà entamé, c'est-à-dire le gouvernement est en train déjà de mettre en branle des indicateurs qui montrent déjà qu'il y a la détermination, il y a les soucis, il y a la volonté d'arriver à une gratuité totale. Nous l'avons appelé graduel parce que nous devons aller pas à pas au regard de nos ressources, de notre niveau. Nous n'avons pas assez de ressources budgétaires. Nous avons un budget d'à peu près 5 milliards, vous le savez, en ressources propres. Donc nous devons aller mollo mollo et nous sommes sur la voie, mais nous n'avons pas fait un grand pas, nous sommes conscients, mais quelque chose est en train de se faire.
Godé Kayembe a estimé qu'il faut revoir le système éducatif congolais.
Il n'a pas tort parce qu'il a fait allusion aux 33% déjà à une certaine époque. Nous étions tombés à 1%, mais j'aimerais lui dire que de 1% dont il a fait allusion à peu près 18% aujourd'hui, je crois que la progression est nette. Même si dans ses calculs, il a fait allusion juste à 15%. Mais je le dis qu'ici, le budget de l'éducation s'en prend non seulement les budgets de l'EPSP, non seulement les budgets de la recherche scientifique, les budgets de l'enseignement supérieur et universitaire, il y a aussi les budgets de la formation professionnelle. Donc, tout ça ensemble atteint quand même un certain niveau. De toutes les façons, de 1%, les suivres, tel qu'il a dit, là où on est tombé très bas, à aujourd'hui, plus de 15% d'après lui, moi j'ai fait allusion à 18%, je crois que la volonté d'amélioration est nette.
Merci, monsieur le ministre. Jean Bosco Puna, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Patient Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. C'est une bonne initiative, mais qui va appliquer ça au niveau national? Nous servant de l'expérience de la RDC, bien sûr, les bailleurs de fonds peuvent débloquer l'argent, mais il faut qu'ils soient d'abord rassurés si ça va atteindre les vraies cibles. Sinon, cette entreprise va risquer de subir les mêmes sorts que les autres précédentes, notamment avec les fonds de promotion industrielle qui avaient financé l'entrepreneuriat en RDC, mais à sa grande surprise, l'argent s'était distribué entre les ministres au détriment du petit peuple qui en était destinataire. Il s'en est suivi dénonciation et recouvrement, mais en vain.
J'ajoute cette réaction de Redson Mastake de Calais au sud Kivu qui dit « Ce genre de fonds a toujours existé, mais nous ne voyons pas son impact sur terrain selon ces chiffres qui ont été toujours publiés. Pourquoi ne devront-ils pas aller seuls sur terrain au lieu de financer les gouvernements qui s'enrichissent ?» Jean Bosco Pouna.
Merci, mais j'aimerais également ici peut-être mettre en selle le fonds de promotion de l'éducation nationale, pour lesquels nous nous sommes battus en tant que syndicat, mais aujourd'hui, il n'y a aucune évaluation. Et donc, il y a tous ces problèmes qui se posent au niveau de l'évaluation. Le dernier engagement qu'on avait pris, le partenariat mondial avait fonctionné, mais on a fait des évaluations, malheureusement, au niveau de la société civile, il n'y avait pas une implication directe pour que nous puissions mesurer effectivement les avancées. Je crois que le système, il est en difficulté, c'est un système corrompu et il faut que nous puissions, nous tous, conjuguer des efforts pour sortir le système éducatif congolais de cet état. La corruption est un système éducatif qui n'est plus compétitif simplement parce que l'enseignant n'est pas motivé. Regardez ce que touche l'enseignant aujourd'hui, il est payé au taux de 92. Et donc, quels que soient les engagements qu'on peut prendre au niveau international, quels que soient les moyens qui peuvent être mis à profit par rapport à notre système d'enseignement, si le moteur, l'enseignant, n'est pas au cœur de tout cela, eh bien, ça ne va pas profiter aux bénéficiaires, notamment aux élèves. Je voudrais ici peut-être que le ministre puisse nous préciser, parce que nous n'avons pas été là, par rapport à la gratuité de l'enseignement fondamental et de la généralisation de l'enseignement pré-primaire, parce que à l'engagement que le gouvernement avait formulé, je ne sais pas si on se trompe, le gouvernement a pris l'engagement pour accéder à ce partenariat que nous, bien sûr, on va améliorer le budget, mais c'est justement pour résoudre les axes comme la gratuité de l'enseignement fondamental et puis que tous les enfants en âge de scolarité, notamment ceux de la maternelle, qu'on puisse aller à l'école. Et l'école doit être gratuite et obligatoire. Je ne sais pas si ces engagements vont être mis à profit, à contribution par rapport à nos élèves, parce que le partenariat mondial a dans sa mission de pouvoir résorber tous ces enfants qui ne savent pas aller à l'école. Et donc nous plaidons pour que tous les enfants, à partir de tout petit, puissent aller à l'école. Et c'est une bonne ambition du gouvernement, mais est-ce que c'est ce qui a été fait là-bas pour que nous puissions suivre? Donc voilà ce que nous disons. Nous avons 140 000 enseignants non payés. Vous avez des enseignants qui touchent un salaire dévalué de plus de 50% du pouvoir d'achat.
Jean Bosco Pouna.
Vous avez des enseignants non mécanisés, une mutuelle de santé à laquelle il faut donner des moyens suffisants parce qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus comme dans le temps. Eh bien, voilà tous les problèmes.
Jean Bosco Pouna, le Royaume-Uni dit dans son communiqué par rapport à cette conférence, je cite, « Bien que d'énormes progrès aient été réalisés ces dernières années pour améliorer l'accès à l'éducation, avec 89% des enfants actuellement scolarisés, beaucoup d'enseignants ne sont pas correctement outillés pour transmettre les connaissances de base et les compétences essentielles. » Vous êtes vous-même enseignant.
Mais c'est tout à fait vrai. Nous avons des questions au niveau de la formation continue et au niveau de la formation initiale. Et donc ces questions doivent trouver des réponses. Vous voyez par exemple au niveau de la formation initiale, la qualité de la formation des élèves qui sortent de la pédagogie aujourd'hui laisse à désirer. Mais également la formation continue avec plus de 500 000 enseignants à travers les pays, le gouvernement n'est pas en mesure vraiment de pouvoir donner la formation à tous ces enseignants, mais nous avons besoin d'un plan de formation efficient qui puisse permettre, merci, qu'on puisse quand même prendre en charge les enseignants. Et donc la formation me paraît fondamentale, mais une fois de plus, c'est une prérogative du gouvernement. Parce que des enseignants aujourd'hui non motivés,
merci,
mal
Jean
formés, vous comprenez que ça ne peut que ramener notre système à...
Merci Jean Bosco Pouna, je reviens à vous tout à l'heure. Godé Kayembe, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Madela, je dis bien, je vous appelle depuis Kisangani. C'est une bonne initiative prise en faveur de l'Afrique, car l'éducation demeure sans doute la clé de voûte du développement. Si le continent africain aspire au développement, le financement d'un secteur aussi important qu'est l'éducation est le moyen par excellence pour l'atteindre. Maintenant, faudra plutôt marteler sur la gestion orthodoxe de ces fonds par les destinataires, car on sait que plusieurs gouvernements africains ont des sérieux problèmes de gouvernance. La mise en place d'un comité de contrôle de la gestion de ces fonds me paraît indispensable pour un impact conséquent sur les bénéficiaires de ces projets, que sont les populations africaines. Les gouvernements congolais devraient, à mon avis, aussi réfléchir comment faire bénéficier le peuple congolais de ces financements.
Godé Kayembe.
Oui, avant de répondre à sa préoccupation qui est essentielle, j'aimerais remettre le point sur les i. En ce qui concerne le frais de fonctionnement, lorsque Excellence le ministre parle de frais de fonctionnement donnés aux écoles, ça représente $50 pour le fonctionnement d'une école. Prenez l'exemple du collège Boboto. Vous amenez $50 pour le fonctionnement pendant un mois. Ils vont faire quoi avec $50? Et c'est un problème réel. Lorsque le gouvernement anglais met à la disposition de fonds pour pouvoir former 2400 enseignants, le Congo a plus de 550 000 enseignants. 2000 enseignants, ça représente quoi? Et quel est le programme du gouvernement pour combler le reste? Et lorsqu'il vous parle de 900 000 enfants qui doivent accéder au système éducatif, sur 15 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, parce que le faute de paiement de frais par le parent. Donc le problème est grave. Donc la situation du Congo, c'est comme je l'ai dit. Il faut qu'on revoie le système globalement. Donc il faut se mettre, c'est arrêter tout, c'est poser la question comment nous pouvons démarrer. Tout ce que l'on fait actuellement ne peut pas régler le problème du Congo. Moi, j'ai l'impression que c'est un complot international. Et j'ai toujours dit que le problème du Congo, en ce qui concerne l'éducation, c'est un complot international.
Pourquoi?
Parce que nous avions le meilleur système éducatif. Les Chinois disent que s'il faut détruire un pays, il faut commencer par détruire son éducation. Nous avions le meilleur système éducatif en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation. Et pourquoi? Parce que la Banque mondiale, le FMI, qui vient de nous proposer le programme d'ajustement structurel, a conseillé à Mobutu de ne plus financer l'éducation. Nous sommes arrivés de 33% à 1%. Nous sommes arrivés là. Tout ce que l'excellence ministre peut faire aujourd'hui comme effort, il dit que nous avons fait l'effort. L'effort, là, ça dit 15%, lui n'a pas le pouvoir sur le budget. Parce qu'en fait, le ministre des Finances ne va pas débloquer tous les 15%, il va débloquer 7 ou 10%. Lorsque le Parlement parle de 15 ou 17%, mais lui va débloquer 10%. Mais ça ne peut pas permettre au ministre de payer le reste enseignant. Il y a un problème réel. On doit en parler. Parce qu'on ne veut pas cacher de face. Nous avons un réel problème pour l'avenir de notre République. C'est notre République. Il fallait, quand le ministre parle, que nous mobilisons 5 milliards des ressources propres. Mais qu'est-ce qu'on affecte à l'éducation pour que l'on sache que nous avons de l'avenir? On affecte moins de 500 millions, papa. Sur 5 milliards, on affecte moins de 500 millions à l'éducation congolaise. Et ça va booster notre système éducatif qui a besoin de milliards. Donc, il y a un problème. Nous avons fait le plaidoyer. En ce qui concerne, par exemple, le fonds pour l'éducation, le fonds de l'éducation. Nous avons fait un atelier en 99, 97, pour qu'on puisse créer le fonds de promotion de l'éducation. Ce fonds ne devait pas être une charge pour l'éducation. Ce fonds devrait mobiliser le fonds pour le fonds additionnel pour permettre au budget de l'éducation d'avoir de moyens. Mais malheureusement, dans la conception des autorités, ils ont fait comme une institution qui est devenue budgétivore, qui commence à être une charge pour l'éducation. Ce fonds-là devrait être financé par les taxes incorporées dans le produit de consommation qui permettra à ce qu'il y ait des moyens pour financer l'éducation. Mais aujourd'hui, la mauvaise conception d'affaires fait qu'aujourd'hui, le fonds de vin, il devient une charge pour l'éducation, pour l'État. Donc en fait, je dis, en fait, c'est l'opportunité qu'on nous donne, que, Excellence le ministre, si nous voulons que notre pays avance, nous devons savoir que les 5 milliards que le Congo reçoit, au moins 2 milliards 500 millions puissent être affectés à l'éducation, comme le fait le Rwanda.
Mais la nation a plusieurs priorités.
D'abord l'éducation, c'est primordial. Quand vous parlez de priorité, ce sont les jeeps, ce sont les maisons qu'on construit. Mais l'éducation, c'est primordial. On devrait affecter la moitié du budget national à l'éducation pour booster l'éducation. Parce que notre avenir en dépend. L'avenir de nos enfants en dépend. Aujourd'hui, les gens sont abrutis. Il n'y a pas l'éducation. Ça fait que le lendemain, ne vous plaignez pas quand le Congo sera occupé par les étrangers.
Merci, monsieur le ministre. Il y a Christina Antenas Malou qui dit, j'estime que l'initiative est bonne, mais a un impact négatif sur les populations africaines, car ces enfants auront une bonne formation, mais ils manqueront où l'exploiter. Il est bon que les autorités africaines songent à créer les emplois afin que la dite formation porte des fruits pour les années futures et non être formés pour ne pas avoir du travail.
Et là, c'est une dame, je crois, elle a raison comme une Congolaise sur le fonctionnement de l'ensemble de son pays. En dehors de l'éducation, il y a aussi l'emploi. Et l'éducation doit cadrer avec l'emploi.
Répondre aux besoins
de l'ensemble. Donc, répondre aux besoins de tout un pays. C'est vrai ce qu'elle dit. Nous, en ce moment, nous sommes en train d'abord de nous battre pour être moins pied d'égalité que tous les autres. Parce que lorsque nous parlons de l'éducation, j'approuve tout ce que mes co-débatteurs disent de notre système éducatif. Moi, j'ai déjà dit une fois que nous formons des chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Encore faut-il que nous arrivions à vaincre la peur de nouvelles technologies qui anime l'ensemble du pays, même les pays développés. Nous devons savoir aussi former des gens qui doivent avoir la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et des communications dont tout le monde a un peu peur. La maîtrise de cela, c'est seulement par l'éducation. Il a raison. Mais nous avons quand même une stratégie sectorielle de l'éducation pour essayer de pallier aux faiblesses de notre système éducatif qui nous oblige à accroître l'accès de nos enfants à l'école, plus particulièrement les filles, à donner un enseignement de qualité pour assurer l'équité à tous nos enfants et faire en sorte que tous nos enfants aient la chance. C'est-à-dire, nous parlons ici de l'inclusion, mais aussi faire en sorte que nos enfants ne quittent pas l'école pendant leur parcours. Nous parlons ici de la rétention. Imaginez l'option de 50%. C'est une bonne chose.
C'est par là que vous concluez, monsieur le ministre.
Merci, pas de problème. J'approuve ce qu'il dit. Moi, je serais onéreux si le gouvernement mettait 50% de ses ressources propres dans le cadre de l'éducation. Ce serait une bonne chose. Mais vous connaissez notre pays.
Merci.
Il y a beaucoup de priorités. Et le gouvernement n'a jamais exclu ses partenaires pour participer dans la réflexion de l'amélioration du système éducatif. Ils sont les bienvenus pour nous aider à améliorer le système éducatif. C'est leur pays.
Jean Bosco Pouna, pour vous, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite dans le système éducatif congolais après une telle conférence?
Oui, je ne vous ai pas très bien capté, mais en conclusion, je pourrais dire que il est important que le gouvernement congolais puisse accorder un financement public conséquent à son éducation. Le FPN, c'était un véritable rendez-vous manqué. Il faut réévaluer ces fonds pour lesquels nous nous sommes battus et qui devraient apporter des moyens supplémentaires. Mais il faut en définitive dire qu'un pays aux multiples potentiels comme le nôtre ne doit pas avoir un tel système d'enseignement. Il nous faut donc une politique salariale, un plan de carrière, parce que lorsque vous voyez, la plupart d'enseignants, ils sont vieux aujourd'hui.
Merci.
Et donc le ministre a du pain sur la planche.
Merci. Godé Kayembe, conclusion.
Ma conclusion, c'est un plaidoyer que j'adresse au gouvernement, à travers le ministre de l'EPSP, de pouvoir plaider au niveau du gouvernement pour qu'il y ait suffisamment de ressources pour rendre l'enseignement accessible à tous les enfants. Aujourd'hui, les enfants des pauvres, les enfants orphelins, Les enfants des pauvres n'accèdent pas au système, sont tous exclus du système à cause de la pauvreté. Nous espérons que si on augmente le salaire, le fonds alloué au système, ça permettra que tous les enfants y accèdent. Ça sera bien pour l'éducation de la République.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.